Jean-Luc Godard, dans les histoires du cinéma, il y a une chose qui revient plusieurs fois, sous diverses formes, pas seulement pornographiques, c'est l'idée d'obscénité. Lors du colloque qu'il y avait eu à Locarno, vous n'étiez pas là une des fois où, avec M. Assoumi, on avait abordé ensemble devant Narbonne cette idée de l'obscénité désignée. Il y a un plan, moi, qui m'avait beaucoup frappé, c'est le plan des déportés avec une scène pornographique en dessous d'eux. Et cette idée de l'obscénité montrée ne l'est pas de manière complaisante, mais elle est comme une chose que le cinéma a portée en lui.
Oui. Ben, c'est le...
Elle est dans les cinq, hein. Elle revient dans les cinq d'une manière plus ou moins importante.
Je pense que tu ne te feras pas une image de ma face. Enfin, je sais pas, il doit y avoir quelque chose. Il fallait. J'y pensais pas comme ça, mais c'était. Sans bien comprendre tous les textes de bataille, je sens quelque chose, et cette idée existe dans la littérature aussi, donc c'est une influence littéraire. Elle n'existe pas dans la peinture.
Il y a des enfers.
C'est pas les grands tableaux.
Oui.
C'est pas les grands tableaux. Bosch n'est pas obscène. Et quand la peinture, il y a des peintres qui doivent la voir. Des peintres, j'en connais un que je montrerai peut-être, je vais lui faire une visite dans mon prochain film, qui peint des vieillards nus comme ça. On peut mieux regarder une revue porno. Donc il doit y avoir quelque chose de l'interdit de photographier, de rendre compte du réel en tant que réel. Enfin, il y a des idées philosophiques, la philosophie en a peu parlé, peut examiner ou peut parler, enfin je pense. Et puis que moi, à des moments, il fallait juste dire aussi tous les genres de films qu'il y a à montrer, tous les genres de films. Et par rapport au camp de concentration, qui était mon idée, de la torture ou de montrer quelque chose comme ça.
Ça revient dans la cathédrale.
Le plan que vous citez, je l'ai remis, je crois, deux ou trois fois, des fois. Ça revient dans la cathédrale. Il revient une fois dans la cathédrale.
Avec l'extrait de Frix qui regarde.
Mais
et après,
c'est les films porno de 1900 aussi.
Oui. Mais de toute façon, la pornographie a existé dès la naissance du cinéma aussi.
Oui, mais en deux, mais qu'on ne sait pas. C'est graphique, donc là. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui est un sentiment qui, effectivement, dont on a, et dans tous les films, ce désir de déshabiller le sexe opposé, d'abord, puisque ça a surtout été un métier d'homme et pas de femme, et puis maintenant que l'homosexualité est reconnue, donc on voit tous les films d'une manière aussi nulle, du reste, essayent de faire avec les hommes, il y a un film d'un jeune cinéaste, je crois, qui est un peu en vogue, qui s'appelle François Ozon, qui ne s'appelle pas François Ozu, en tout cas, et qui a fait un film qui s'appelle Regarde la mer, Regarde la mer, et dont le vrai titre devait être Regarde la mer de, et puisqu'il filme des plans de...
Un plan,
et qu'on ne peut pas faire ça, qu'il ne sait pas le faire, qu'il ne traite pas son sujet, si ça c'est son sujet. Et que du reste, Pasolini, lui-même, bien que le liant à la République, n'a pas réussi, mais il en est presque mort.
Dans Salaud, oui.
Oui.
Mais peut-être aussi parce que l'obscénité au cinéma n'est pas forcément montrée d'image pornographique.
Oui, certainement, comme ça. Mais
je dis ça parce que, l'évidence, c'est l'image furtive pornographique et après l'image de la femme nue morte dans le camp de concentration, dans la Catra, qui désigne deux formes d'obscénité. Mais une, c'est l'obscénité de celui... Dans les deux cas, c'est peut-être celui qui a fait, qui a produit cette situation.
Oui, c'est pas très...
Mais il y a un trouble, là. Il y a un trouble gênant. Pas gênant de l'avoir fait, gênant...
Ben, ça peut se faire, peut-être, historiquement, document d'histoire, donner un sentiment, puisque la phrase est employée, qu'elle peut être donnée, mais surtout sans qu'on en parle. Sans qu'on en parle. En rapprochant deux images qui ne souhaitaient pas être rapprochés, mais qui est le cinéma, comme la médecine. Quand un médecin rapproche deux choses et qui dit, mais c'est... Si vous avez mal au foie, c'est parce que ceci, s'il sait encore le dire, et le patient ne souhaite pas vraiment entendre ça. Il souhaite être guéri, mais il ne souhaite pas entendre ça, puisqu'on lui dit, ce qu'il souhaite, c'est plutôt qu'on lui dise un truc très précis en lui disant, ben pour ça, on a le médicament maintenant, aujourd'hui. Les trois quarts du temps, ça ne marche pas.
Mais dans le cinéma, dans les histoires du cinéma, il y a deux choses que moi je rapproche, avec en pont cette idée d'obscénité. C'est A Girl and a Gun, une fille et un fusil pour
voilà,
faire des films.
Voilà, qui était profondément obscène, et qui vient de Griffith quand même.
Et l'autre, il vient de Griffith, c'est le rapport que
enfin,
vous...
Enfin, des États-Unis.
Oui, oui, mais que vous désignez aussi très bien, c'est le rapport entre Albertine, je crois que c'est Albert, non, je ne sais plus, non, enfin, l'expérience de Charcot sur l'hystérie, c'est Albertine. Oui. L'expérience d'Albertine et la séquence à travers l'orage de Griffith, oui. Donc l'idée d'hystérie, bon, aussi.
Mais là, c'était le rapprochement des deux images, c'était les mêmes.
Oui, mais pourquoi ?
C'était les mêmes.
Pourquoi sont-elles les mêmes ? On ne rapproche pas ce qui
voilà. Ben ça, on peut peut-être faire un texte après. Ça, c'est les textes que devraient faire les revues de cinéma.
Oui, mais ils ne le font pas, ça. Ça ne les intéresse pas.
Qui doivent à des moments quitter le film pour mieux y revenir.
Oui, mais
et faire le texte clinique, ce qu'a fait Freud, enfin, ou ce que fait un bon médecin, ou un bon mathématicien, ou un bon sociologue, faire rapprochement. Le cinéma pourrait être merveilleux pour ça.
Oui, mais
parce qu'une fois qu'on a ça, on regarde et on regarde qu'est-ce qu'on peut dire. Si dès le départ on dit je veux dire ça et pour dire ça je rapproche pas, c'est je rapproche. Voilà,
oui,
c'est nul.
C'est aucun intérêt.
C'est nul. C'est comme on dit fasciste, staliniste, c'est pareil. Alors il y en a qui disent c'est pareil, puis l'autre et puis les autres disent ah non, quand même.
Oui. Mais rien n'est dit.
Eh bien voilà, rien n'est dit, rien n'est sûr, rien n'est vu.
Oui, mais il y a aussi un autre...
C'est comme je suis sûr qu'un jeune aujourd'hui, dans la quatrième, dans la toute dernière, quand on voit Israël et Ismaël, il doit se dire, tiens, Ismaël, qui c'est celui-là ?
Oui, mais alors dans la dernière, combien de gens vont savoir pourquoi il y a Madagascar marqué par rapport à d'autres moments de l'histoire et de la répression ? Peut-être maintenant on va le savoir, parce qu'il y a une émission qui va passer sur Arte sur le cas de Madagascar en 1947, mais ça c'est les grands...
Bah oui, mais on dit on n'a rien vu, donc
on
ne sait même pas où c'était.
On ne sait même pas où c'était. Mais il y a un autre moment qui rejoint toujours ça, c'est quand même... si la caméra de George Stevens n'avait pas été là en 16 mm couleur
voilà,
pour filmer les concentrations,
les
météores n'auraient pas eu sa place au soleil. Bon.
Elle n'aurait pas eu ce sourire là.
Voilà, et ça c'est...
Parce que
fois,
c'est le meilleur film de
Stevens, ouais.
De Stevens et qui était inspiré. Il est inspiré quand même. Il y a des moments d'expression de bonheur dans ce film relativement moyen, enfin, mais qui est un beau film.
Mais qui traite de l'obscénité.
Et
aussi.
Puis qui vient d'un bon roman moyen.
Mais qui
aussi,
traite de l'obscénité, le roman. C'est quand même une histoire obscène, théoriquement, l'histoire que ça raconte, la tragédie américaine de Dreiser.
Oui, la tragédie. Ben Eisenstein voulait faire, donc il faisait partie, ce film faisait partie de l'histoire du cinéma,
oui.
Ne fût-ce que par le fait que Eisenstein a voulu le faire, que Sternberg l'a fait sans vraiment le faire en le terminant pas, et qu'à un moment, ben, c'est Stevens, dont on aimait beaucoup, surtout moi au cahier, ces immenses fondus enchaînés qui n'en terminaient pas, où il y avait quelque chose, mais dans l'idée de fondus enchaînés, il y a un sentiment, et que lui a fait tout naturellement, sans le savoir, puisque ces cassettes, ces films en Kodachrome qu'il avait fait, il les a gardés pendant longtemps chez lui.
Mais là, on touche aussi à autre chose, c'est peut-être les cinéastes qui, par moment, prenons dans le cinéma américain, par moment, ont su faire quelque chose qui tenait du secret, quelque part, lequel, je ne sais pas. C'est les gens qui avaient rencontré cette immense...
Non, mais il y avait la notion de secret, combien de fois les titres des films, il y avait
le secret derrière la porte,
le secret de Fu Manchu. Oui.
Attendez, Jean-Luc Godard, ce que je veux dire, c'est que quand...
Mais qu'à des moments, le titre même dans les histoires du cinéma est image, et ça, les gens, je pense, le voient plus. On met le secret de la porte, il n'y a pas besoin de montrer de plan.
Oui.
Il faut montrer avant et après, et le mot secret derrière la porte, parce qu'un texte est un... Il y avait une émission que je voulais faire sur le montage, enfin, ce qui manque beaucoup à ces histoires du cinéma, mais ça devait se faire si on n'avait pas été viré de la FEMIS, enfin même pas engagé, ou comme ça, avec d'autres, avec des équipes. C'est ce que j'appellerais les annexes, qui seraient beaucoup plus les notes de bas de page, mais qui auraient fait des films. Par exemple, Les enfants jouent à la Russie est une annexe, un chapitre sur le cinéma russe, par exemple, ou de choses... Comme ça, c'est qu'un mot, je voulais faire à propos du montage, moi, une émission qui partirait de, bon, de l'époque, mais de Champollion, qui est né à l'époque de la photographie, et le secret
des idéogrammes.
Quand il a découvert, au bout d'un moment, quand il a découvert qu'il a réussi à déchiffrer l'écriture. Les hiéroglyphes. Mais c'est venu un moment quand il a comparé trois textes. Pas deux, mais trois.
Mais ce que
ben pour découvrir le sida, et comme ça, il devrait repartir de Champollion. Parce que lui, quand il a découvert les trois textes, il a, à un moment, il a su en faire quelque chose comparé à d'autres.
Mais je reviens à l'idée que je voulais donner, c'est que Stevens filme avec sa caméra ça, et un autre jeune type découvre les camps de concentration, et après fait un cinéma qui a à voir avec ça, pour moi, c'est Fuller.
Fuller a eu une...
Fuller a découvert la concentration et sa vie a changé complètement et son regard a changé.
Non, il y a ce beau plan du cinéma américain, du sergent américain, je ne m'en souviens plus qui c'est, dans Big Red One, devant les fours.
Devant les fours, avec une scène métaphorique complètement, mais comme Fuller sait les faire, où il tire, sur le, et l'autre vient, lui dit tu l'as eu, et lui met une cartouche, une bandoulière, et s'en va pendant qu'il tue une idée. Bon, mais c'est pas que de ça dont je veux parler, c'est la manière dont la violence était filmée chez Fuller, dans le moment où les idées fortes, anarchistes, parfois même un peu naïves, étaient montrées. C'est quelqu'un qui avait rencontré à un moment de sa vie, dans sa vie, cette obscénité en face.
Oui.
Et moi, je crois que c'est peut-être le grand problème
peut-être le seul,
de la mémoire. Il y a des mémoires qu'on ne peut pas effacer.
Ben, oui, il a découvert le Verboten aussi, l'interdit. Et comme ça, c'est un des rares cinéastes américains qui a dû avoir une notion du secret, comparé à d'autres.
Et récemment, je parlais à des élèves qui venaient au cinéma et je demande qui a vu une Mes brouillards. Il y en a qu'un qui l'avait vu, il a dit « Ah oui, mais c'est vraiment trop dur ». Ce qui veut dire qu'il a une volonté d'oublier, il n'arrive pas, ce film. Ce qui veut dire, on dirait que la mémoire, il y a des choses qu'on ne peut pas effacer et qu'on n'effacera pas de ceux qui l'ont vu vraiment. Et là, il y a un thème quand même que j'aimerais aborder, c'est la guerre. C'est que qu'est-ce qui a donné envie aux gens de voir des spectacles de guerre ? C'est le cinéma.
Oui, certainement.
Parce qu'avant la guerre, ceux qui l'avaient vécu n'avaient pas envie de la voir.
Ceci dit... Dans les mythologies, les récits de guerre...
Ce sont des héros, Jean-Luc Godard. C'est pas la piétaille, c'est des héros. L'Iliade, c'est des héros. La chanson de Roland...
Oui, mais au moment de la piétaille... Il y a toujours eu, après, le conte chroniqueur. C'est-à-dire, il y a eu Homère, puis un peu plus tard, il y a eu Thucydide. Disant, non, faut pas...
Oui, mais il a été...
Et il était oublié, c'est dommage.
Oui, mais
parce qu'il faut les deux. Moi,
mais pourquoi il est oublié ?
Moi, j'aime les deux.
On touche le problème. Pourquoi il est oublié ?
Oui, mais ça, c'est les garçons. C'est les garçons et les filles aiment bien les garçons, donc elles les laissent faire. Et les garçons aiment la guerre. Moi, j'en ai peu fait, peu mis. Sinon, parce que ça appartenait à mon pays ou à mon histoire, je ne pouvais pas l'ignorer petit à petit, sauf pendant l'enfance où je l'ai ignoré dans une famille riche, donc j'ai pu l'ignorer, et puis comme ça. Mais après, je ne comprends pas. C'est quelque chose que je ne comprends pas les ouvriers des arsenaux, je ne comprends pas celui qui fait carrière dans l'armée. Il y a un film publicitaire où on dit presque aujourd'hui
« Engagez-vous
!»« Engagez-vous !»« Engagez-vous !»« Engagez-vous !» comme j'en ai... Ça n'a aucun sens, je ne sais pas.
Et le succès...
Tout naturellement, moi j'ai déserté. J'ai déserté simplement parce que j'ai pas envie qu'on... J'aime mieux aller faire la plonge ou être dans un bureau ou mendier. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on ait le désir... Je comprends très bien qu'on ait le désir de s'engueuler avec quelqu'un, même violemment, et que si on arrive à le faire, on n'a pas envie de lui taper dessus, puisqu'on a pu... La langue est faite pour ça, c'est merveilleux. On peut dire à quelqu'un, salaud, connard, t'as fait... Bon, ben voilà. Et puis après, on en fait, on se bat avec soi-même.
En le disant, déjà.
On se bat avec soi-même en le disant, puis après, en réfléchissant, en arrivant à réfléchir, à dire, ouais, quand même. Et puis, on n'a rien, il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a rien. On a tous les éléments de pensée, d'écriture, on a des monceaux de livres et de trucs pour réfléchir après à soi, à ce que l'autre a pu nous dire de juste. Pourquoi veut-on l'agresser, lui taper
Oui, mais moi, ce qui me frappe
et
dans
comme
le
ça, et si
cinéma...
on l'a après, moi j'en suis toujours honteux si on l'a.
Oui, mais attendez, Jean-Yves.
Donc je ne comprends pas, mais, et le cinéma a repris ça, mais les enfants l'ont repris, voyez les...
Oui, votre film sur ce qui se passait au Liban, vous montriez les enfants jouer à la guerre à côté de la guerre en
ouais,
Palestine.
Mais ça a toujours été comme ça. Vous voyez,
oui, mais...
les enfants dans les ruines tchétchénies, bon, ils jouent avec des bouts de bois, des fusils.
Oui, mais cette représentation
ils
de la guerre...
Les filles ne font pas ça.
Mais la représentation de la
les
guerre...
Les filles ne font pas ça.
Dès 14-18, des opérateurs filment la guerre, et
oui.
Ça va dans des dossiers... ce qui est devenu le SCA. Bon, à côté de
on
ça...
On a tout filmé. On a
oui,
tout,
on mais a... on ne l'a pas montré.
On ne l'a pas montré.
La
on
vraie
a,
guerre.
On a tout filmé.
La vraie guerre, on ne l'a pas montré.
Je
alors
suis persuadé que les camps de concentration ont été filmés en long, en large et en travers par les Allemands, parce que les Allemands étaient des...
collectionneurs.
Des collectionneurs, des fous des archives. Ils filmaient tout. Ils filmaient tout, les soldats filmaient des photos de leurs copains fusillant une Ukrainienne.
Mais qu'est-ce qu'ils faisaient pour le public?
Pas montré, ça
pour
existait.
Le public, ils faisaient des faux
ensuite,
documentaires.
Ensuite, on fait du théâtre et même les Allemands ont fait du faux documentaire très, très bien fait, tout à fait. Enfin, très bien fait.
Mais après 14-18, qu'est-ce qui se passe? C'est que le cinéma prend la guerre comme sujet, pacifiste ou pas pacifiste, on ne va pas parler de ça, ce n'est pas la big parade par rapport à d'autres, et mettre en scène la guerre... d'une manière qui, même si elle révulse, elle est attractive. Alors que l'image
mais forcément, je
plate...
me souviens encore quand dans Mozart, on ne pouvait pas éviter d'en faire. J'étais assez gêné. Je me souviens très bien quand on fabriquait des explosions. Quand l'explosion était là, tout le monde, moi aussi, je disais, ah oui, elle est bien, cette explosion.
Oui. Ah oui, mais... Et en même temps...
La peinture l'a fait.
Figé.
La peinture... Alors, il y a le côté pamphlet, quand Goya,
non, il y a que Goya qui a fait les
Goya
désastres.
Fait les désastres de
oui,
la guerre.
Oui, mais c'est un des rares. Les autres ne font pas les désastres de la guerre.
Tout à fait.
Ils font la victoire de machin.
Tout à fait. Les... On peut penser que Goya, s'il n'y avait pas eu la guerre d'Espagne, ne l'aurait pas fait. Mais c'était son devoir de peintre de faire cette peinture-là.
Oui.
Là, il l'a fait mieux qu'un autre aussi.
Oui, mais quand on lit Victor Hugo ou Stendhal racontant une bataille, c'est toujours après la bataille, on ramasse les corps... C'est là qu'il y a l'histoire, disons, de Thénardier qui est sauvé, enfin qui sauve en voulant voler quelqu'un. Et puis dans Stendhal, Fabrice n'a rien vu à Waterloo. Là, il y a brusquement une notion.
Tolstoï l'a fait en direct. Non, mais c'était 50 ans après.
Oui, mais l'intelligence de Stendhal et tout, c'est de oui. Dire de quel droit on va raconter et décrire.
Non, mais tout à fait. Ça, on voit plus.
Alors
mais
que...
le cinéma l'a fait. Mais combien, ce qui m'a toujours choqué, combien d'acteurs américains et encore français, et tout le monde aujourd'hui, quand on fait des films, ou même en comique, la Grande Vadrouille, ou Francis Blanche, ou comme ça, combien, même Jerry Lewis, combien sont contents de jouer des généraux ou des officiers allemands.
Même en
donc
caricature.
Acteurs.
Même en caricature.
Oui, mais ils sont contents de faire les chefs ou de trucs comme ça.
Oui.
En revanche, les Américains n'ont jamais fait de films sur la guerre du Vietnam, ou, du côté nord-vietnamien.
Ah non, jamais. Non.
Alors pourquoi? Moi je pensais parce qu'il n'y avait pas de petits acteurs américains.
Oui, mais...
En taille, les Vietnamiens étaient trop petits et ils ne pouvaient pas le faire.
Oui, mais je suis mon idée, Jean-Luc Godard, c'est que quand... je parle de Fuller.
Parce
quand
qu'ils en ont, les Américains, ils en ont... Mais c'est une manière de dominer, de reprendre. Tous les films de guerre sur la mer ont été faits par les Anglo-Saxons.
Oui.
Les Français en ont fait très peu. Les Russes, quasiment pas. Il y avait toujours un rôle d'Allemand caricatural.
Oui.
Ils ont fait des films chez eux, si vous voulez, les Français.
Les Italiens en ont fait
si
aussi.
À leur manière. Les Italiens aussi. Bon, mais les Italiens, ils étaient des deux côtés.
Mais si je reviens à Fuller, quand Fuller fait ses films de guerre, je pense aussi au premier qu'il a fait, qui sont considérés par la critique très rapidement comme des films militaristes, en fait, quelque chose est différent. C'est que les films de guerre de Fuller ne montrent jamais autre chose que le fantassin de base dans son dégoût ou dans son hystérie. Aussi, il y a déjà une petite différence.
Aussi.
Peut-être parce qu'il a vu ce secret.
Et après, il a essayé d'aller un peu plus loin.
Oui.
Mais au début, il y a ça, ou les films d'Anthony Mann. Hein.
Ou ceux de Walsh aussi.
Walsh, il y a le côté Ford aussi, la gaudriole, qui est une manière de faire plus honnête.
Plus honnête. Mais vous avez quand même fait un film, là on est un peu, vous ne le citez pas, si vous le citez, il y a quelques moments que vous le citez dans l'histoire du cinéma, qui pour moi est le film absolu là-dessus, c'est Les Carabiniers.
Mais ça venait de Rossellini. Hein.
Parce que dans
ça venait de Rossellini, ça s'est fait comme ça, c'était une position naturelle.
Oui, mais c'est à l'époque on vous a traité de fasciste quand vous l'avez fait. Des crétins, mais enfin.
Oh, mais ce... Tout à fait, tout à fait.
C'est quand la fille qui dit Mayakovsky, la femme de Mayakovsky, et qu'on tire, elle n'est pas morte. Les gens ont pris ça comme une complaisance fasciste. Alors que pour vous, c'était pas ça.
Elle l'était aussi, il y a ce côté d'obscénité, ce qu'il faut, qui est difficile à faire. Il y a Rossellini qui a réussi à ne pas... L'officier allemand dans Rossellini.
Dans Romville ouverte, quand il tire.
Dans Romville ouverte, l'officier allemand même,
qui est
dans la pièce à côté, ou le prêtre, ou après, quand Pagliero est torturé. L'officier allemand est un personnage qui est au même niveau que les autres.
Oui.
Il n'est pas allemand. Enfin, il y a quelque chose d'autre. C'est l'histoire.
Oui, c'est vrai.
Il est comme ça. Et c'est le seul qui peut passer comme. Il est profondément de fiction comme ça. On peut le mettre dans un film d'actualité. Et il passe à en dire « Ah, pour une fois, on ne voit pas un petit flash sur une résine, comme ça on voit. »
Oui, mais moi, ce qui me gêne aujourd'hui par rapport à cette représentation de la guerre que la fiction a prise en main...
C'est très étrange que les gens aillent voir.
C'est le ricochet qu'il y a dans les images de guerre d'aujourd'hui, dans les télévisions et du monde entier. C'est-à-dire que le commentaire, le moment montré... de plus en plus court d'ailleurs, qui est fait, ressemble plus à une image de film de fiction qu'à la réalité qu'un opérateur a été filmé. Est-ce que c'est subjectif? Est-ce que c'est parce qu'on a été intoxiqué par ça?
Je ne sais pas, on dirait des films de fiction, sauf quand c'est des vieux documents à cause du noir et blanc, ou c'est rayé, on se dit ça. Oui, les autres, on dirait ça n'existe. Mais ça n'existe pas non plus, la pensée des gens qui ont fait la guerre, la pensée des gens qui la filment, ou ça. Ça n'existe pas, c'est comme ça, tous ces trucs de télé, c'est très proche là. Enfin, je ne sais pas.
Et par rapport à la guerre, il y a forcément la mort. Et est-ce que filmer la mort, c'est pas obscène?
Oui, certainement, on ne filme pas ça.
Il y a quand même un plan chez Jean-Luc Godard qui nous avait beaucoup frappé à l'époque où le film était sorti, c'est dans Bande à part. C'est la séquence où Brasseur fait semblant de mourir comme dans un western de manière très réaliste devant une voiture. Et après, quand il meurt vraiment devant la maison, il tourne en rond. Et les gens commencent à rire dans la salle, ils tournent en rond et le commentaire vient à ce moment-là que vous dites, où on rit plus. Mais et que cette mort qui est la vraie, soi-disant dans le film, a l'air complètement ridicule. Il y a impossible, alors que la mort qu'il mime, celle que le cinéma nous habituait.
C'était l'influence aussi du bon cinéma, enfin ce qu'on trouvait bon du cinéma américain. Ça aurait pu être dans un plan de Fuller ou dans un film d'Aldrich. C'est cette façon de faire.
Et en plus, le réalisme de la mort dans les guerres n'est jamais.
Le film de Wenders avec Nicolas Ray à la fin de sa vie
est
obscène.
Oui, mais il le revendique.
Il le revendique parce qu'il est bête. Il dit c'est ce que je voulais faire.
Oui, mais c'est ce que je veux dire, il le revendique.
Voilà. Oui, mais c'est comme... c'est Bernanos qui parlait des imbéciles et qui disait les imbéciles c'est comme les portes. Il est facile de les ouvrir, mais on oublie toujours de les fermer. c'est ça.
Oui.
Et non, et c'est méchant à l'intérieur de lui. C'est autre chose après. Un analyste, un bon analyste, il a refait pareil avec Antonioni.
Mais quand vous montrez le.
Non, c'est quelque chose de lui et on ne fait pas ça.
Oui, mais alors est-ce que le.
Et il abuse, c'est exactement. C'est exactement le même plan que dans Les Illusions Perdues quand je crois que c'est Delphine Goriot revient voler ou dans La Cousine Bête, quand on c'est surtout dans La Cousine Bête, quand elle le fils revient voler les quelques sous le matelas de la mère qui est à l'article de la mort. C'est la même chose, la vie, il vient voler quelque chose.